Bon, écoutez, monsieur Mermet, je suis en train d'écouter votre émission, là. Moi, j'en ai marre. Les Français sont racistes, les Français sont fascistes, les Français mettent tout le monde dans le même sac. Moi, je me sens insultée. Vous entendez, on habite dans un petit village où le racisme n'existe absolument pas. Hein, il y a toutes les communautés sont représentées, mais on ne se pose même pas la question. On ne cherche pas à savoir si lui, s'il est d'origine africaine ou marocaine, s'il est blond, s'il est brun, s'il est bleu, s'il est noir. J'en ai marre de me faire insulter à longueur d'année, les Français racistes, il y en a marre. Vous rendez même pas compte, vous êtes de bonne foi, mais vous vous rendez même pas compte que vous augmentez ce racisme-là. Vous vous en rendez même pas compte. Et pourtant, vous êtes de bonne foi, nom d'un chien. Réfléchissez un peu, il y en a marre.
Salut Daniel et merci encore pour cet éclairage concernant la manifestation contre le racisme. Cet éclairage de la part de votre intervenant qui nous a quand même mis au parfum de cette embrouille entre mouvements antiracistes. Alors si la LICRA et SOS Racisme n'ont pas été présents à cette manifestation, ben tant pis pour eux. Il faut surtout saluer la présence des Verts, de MRAP, de la CGT, de Lutte Ouvrière, de SR et de l'UIF, et surtout de tous les autres citoyens qui sont descendus dans la rue pour dénoncer toute forme de racisme et surtout antisémitisme. Alors, pour certaines organisations, ben, tant pis pour elles, s'ils trouvent que c'est pas assez chic de descendre, manifester à côté des bonioles, entre guillemets. Au revoir.
Ah, et salut Mermet, je viens d'entendre ton émission là sur la manif antiraciste. Alors c'est sympa, tu fais du pédagogique, ça c'est sûr, mais alors faut quand même pas se moquer du monde. Parce que t'as interrogé des gens, y compris Fouad Alaoui, qui est à mon avis quelqu'un de vraiment infréquentable, il n'y a qu'à demander aux nanas de ni pute ni soumise ce qu'elles pensent des prises de position de l'UOIF, il faut quand même pas exagérer, on manifeste pas avec n'importe qui, je veux dire on peut pas manifester avec Alaoui comme on peut pas manifester avec certains mecs d'extrême droite, ça me paraît assez évident, et tu as donné les positions d'un tas de gens, sauf que t'as quand même oublié de demander à SOS Racisme ce qu'ils en pensaient et quelles étaient leurs véritables motivations. Et quand le soi-disant expert que tu interroges nous dit que en fait ils ont changé d'idée parce que c'était une question de base de la manifestation et que en fait après ils en sont venus à exclure des organisations islamiques, faut quand même pas se moquer du monde parce que je crois effectivement on se fout pas mal de savoir si c'est parce que il y avait une base de manifestation qui n'était pas la même, soit parce que c'était après, parce que l'UOIF était là. Effectivement, l'UOIF était là, et ça, on peut pas manifester avec des gens comme ça, qui font semblant d'être des antiracistes, et dont on sait pertinemment dans leur prise de position qu'ils ne le sont pas. Alors, s'il te plaît, quand tu fais du pédagogique, tu essaies aussi de faire parler ceux qui sont en face. Salut, mais j'aime bien ton émission quand même. À bientôt, Michel de Bordeaux.
C'est le principal, hein, c'est que vous aimiez l'émission quand même. Merci pour vos réactions à l'émission d'hier. Enfin, il y avait deux reportages hier. Et celui-ci concernait la manifestation de dimanche contre cette marche contre le racisme. Aujourd'hui, on va se balader, une heure d'évasion. Mais oui, puisque nous partons en Tunisie. La Tunisie, c'est l'évasion, c'est le petit paradis de Zine El Abidine Ben Ali, notre ami Ben Ali, le président à vie ou presque de ce petit paradis qui a été réélu, vous le savez, tout récemment. Et nous avons eu l'occasion de nous rendre dans ce pays à deux reprises et nous avons pu mesurer et évaluer la conception de la liberté de la presse qu'a notre ami Ben Ali. Vous vous souvenez peut-être de nos déboires assez tumultueux dans ce charmant pays. Au cours de ces reportages, nous avions rencontré Siem Ben Cédrine, qui est une femme tout à fait remarquable, qui est une militante des droits de l'homme et une résistante démocratique tout à fait remarquable, et elle publie aujourd'hui avec son mari Omar Mestiri un livre qui s'intitule L'Europe et ses despotes et qui essaye d'aller plus loin concernant la Tunisie, mais pas seulement la Tunisie, d'autres pays arabes, qui essaye d'aller plus loin ben, que ce contre quoi nous nous étions heurtés, c'est-à-dire l'interdiction d'aller plus loin, de comprendre plus. Donc on s'était un peu limité à cet affrontement autour de l'interdiction de circuler, l'interdiction de rapporter simplement des reportages. Et donc on va essayer d'aller plus loin sur ce mystère quand même qui persiste, celui de l'appui et de la complaisance française envers ce pays, mais aussi envers d'autres pays, et d'une complaisance de l'Union européenne vis-à-vis d'un certain nombre de despotes. C'est notre thème du jour. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37, avant cette heure d'évasion.
Oui, bonjour. Voilà, un petit message pour dire qu'il y aura un rassemblement à 17h devant EDF, 9 rue des Cuirassiers à Lyon-Pardieu, et à 18h devant la gare de la Pardieu contre la mort inacceptable de Sébastien Briat, écrasé par un train de déchets nucléaires. Voilà. Bon, bah c'était ça. C'était Fred de Breno. À bientôt.
C'est Olivier, à Sainte-Tulle, dans le 04. C'est pour vous parler d'une des raisons pour lesquelles Nicolas Sarkozy sera notre président de la République en 2007. Daniel Mermet, tu parlais de la chaîne Fox aux États-Unis, entièrement vouée à la cause Bush. Ben, en France, on a les médias aussi, hein, qui aiment vraiment bien Sarkozy. Et il fallait que j'en parle, parce que vraiment, d'entendre sur France Inter hier matin que Nicolas Sarkozy allait sortir son deuxième livre, alors qu'il n'en a pas écrit une seule ligne, je savais même pas qu'il en avait écrit un. D'entendre le soir qu'il s'oppose aux Américains sur un certain aspect économique, et puis d'entendre aujourd'hui qu'il veut résoudre les problèmes de services bancaires, et puis j'écoute que la radio, hein, je regarde pas la télé, ça doit être encore pire. Le résultat, c'est qu'on retient que Nicolas Sarkozy se bouge, et c'est ce que vont retenir les gens, ces gens-là que je vois souvent et qui ne votent pas, qui considèrent la droite et la gauche kiff-kiff. Et qu'est-ce qu'ils vont voir, ces gens-là? Ben, ils vont voir que Nicolas Sarkozy, ben, au moins, lui, se bouge, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça que en 2007, eh ben, on y aura droit.
Pour perdre tous nos auditeurs, pour perdre tous nos auditeurs, il faut passer de la pub, il faut passer de la pub. Il y a la connerie dans la pub, c'est ce qui nous rend costaud. Pour perdre tous nos auditeurs, pour perdre tous nos auditeurs, en les prenant pour des gogos, en les prenant pour des gogos. Oh yeah, c'était Gribouille de Saint-Germain-des-Prés en Dordogne. Salut, et le combat continue.
La Tunisie ne se situe pas.
Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre Eldorado.
Dans une situation...
Maintenant, on va vous donner une idée sur le programme de l'animation durant la semaine. Et après, on vous donnera une idée sur la Tunisie, ainsi que sur les possibilités des excursions au départ de l'hôtel.
Le premier des droits de l'homme...
Je vous rappelle aussi qu'il y a un thé qui est servi tous les jours entre 16h15 et 17h15 avec un cake et qui est offert
de manger.
La mer est belle, et tout ça, l'eau est bonne, c'est formidable, quoi. J'ai une vie de famille, quoi. Ici, on est bien parce que on est chez soi.
Le premier des droits de l'homme, c'est
généralement les interrogatoires, j'ai été tout ni.
De manger, d'être soigné, de recevoir une éducation et d'avoir un habitat.
Parfois, il m'était dans des bureaux, hein, j'écoutais des gens torturés à côté, donc j'écoutais des cris, des bruits, ou bien lorsqu'il m'amène dans les salles de torture, je trouvais des traces de sang, de... C'est presque une science de torture tous les 2-3 jours. Enfin.
Le premier des droits de l'homme, c'est de manger, d'être soigné, de recevoir une éducation et d'avoir un habitat. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance sur beaucoup, beaucoup de pays. Naturellement, nous avons chacun nos critères d'appréciation et souhaite que le caractère libéral, respectueux des libertés, soit de plus en plus affirmé, ce dont je ne doute pas d'ailleurs, en Tunisie. Et enfin, je constate que de ce point de vue, quand même, la Tunisie ne se situe pas dans une situation contestable.
Alors, pour ou contre ce genre de vacances ? À vous de choisir. Chaque année, il y a un peu plus de clients pour les charters, un peu moins de plages désertes, mais toujours la même joie de vivre. C'est au fond l'essentiel, non ?
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Siem Ben Sedrine, le modèle tunisien.
Flight number 2, arriving from New York.
Siem Ben Sedrine, bonjour.
Bonjour.
J'ai sous les yeux quelques éléments de votre parcours. Journaliste tunisienne, militante des droits de l'homme depuis 1980, subit une persécution ininterrompue depuis l'arrivée au pouvoir de Ben Ali, en raison de son activité au sein des ONG de droits de l'homme. Éditrice, sa maison d'édition à l'OS publie les œuvres des artistes les plus dissidents. On va dire que la maison est fermée. Porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie.
Oui.
Rédactrice en chef du journal internet d'opposition Kalima.
Exact.
En prison entre le 26 juin 2001 et le 11 août 2001 pour avoir accusé de corruption Moncef Trabelsi, c'est ça ?
Oui.
Un membre d'une des sept familles qui pille la Tunisie et beau-frère du président Ben Ali. Voilà qui j'ai en face de moi, un personnage quand même relativement dangereux, également auteur d'une lettre à une amie irakienne disparue en novembre 2003. Voilà, ça va le portrait ? Un peu lapidaire ?
Non, c'est bon, ça le trace un petit peu, quelques jalons.
Ça raconte pas nos aventures.
Non.
Ça raconte pas nos aventures tunisiennes. Ensemble, il y a quelques temps déjà. Septembre 2000, Mardia.
Histoire de 2 minutes, 3 minutes.
Vous êtes qui, vous ? Et qui êtes-vous ?
C'est le plus classique, quoi. On vient d'être arrêté par un type qui dit pas qui il est, qui ricane quand on lui demande, et qui se met en travers, qui se met en face de nous.
Et qui est en train de faire les 100 pas avec son téléphone portable. Il se fait un mouton qu'il y avait deux voitures qui nous suivaient à tour de rôle, quoi.
Mm-hmm. Ça vous arrive souvent, ça ?
Oui.
Oui, mais braquer comme ça, c'est nouveau. D'habitude, quand même, ils nous laissent nous galer. Ou ils nous arrêtent autrement. Alors, je sais pas.
Ah oui, il y a des copains qui sont arrivés derrière.
Oui, je pense qu'il attendait des copains, c'est ça. Et son nombre, tu dis le nombre de personnes qui sont là. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8.
8 personnes pour nous ? Oui.
Aslam.
Dans la scène.
Amal tu interview, m'gir wacht.
L'agression ?
M'gir terchis.
Non, le kali m'a famèche, terchis pour l'interview. وهما فيما يخص الرخص الرسمية عملوها
شكون هم؟
هما فرنسا انتر
اي
اي وعندهم رخصهم شيء
بالنسبة لنا احنا ما عندناش ترخيص
ليه هما همش منك انت باش يطلب ترخيص هو ما يطلبش ترخيص منك هو يعلم
انا نتكلم فيك كسلطة
اي فهمتك لكن انت سلطة تنفذ القانون مش تتجاوز القانون
لا
اي القانون ما يقولش اللي عندك الحق باش
Est-ce qu'il dit?
Hani, quoi que tu dises sur le canal.
Dit que vous avez fait des interviews
sans lui demander son autorisation.
À qui? À ce monsieur?
Oui. Il est le chef du district de Sfax.
Soyez le bienvenu en Tunisie, monsieur. On doit vérifier les appareils.
Non. Non.
Je suppose.
Si. Est-ce qu'on appelle l'ambassade tout de suite, monsieur? Est-ce qu'on appelle l'ambassade de France tout de suite? Bon, alors on va appeler l'ambassade.
S'il vous plaît.
Non, non.
Bienvenue en Tunisie.
Vous
nous
donnez le
site
pour vérifier.
Non,
c'est hors de question. Vous n'êtes absolument pas disposé, vous ne nous avez même pas montré un document.
Il n'y a pas de document et on a page. On n'obtempère pas, je refuse d'obtempérer. Non, je refuse.
Ferme ta porte, ferme ta porte.
Je refuse.
Non. Voilà, là ils sont en train de nous forcer.
Non.
Et là ils sont en train de nous forcer.
Attention. Ne faites pas ça. C'est une agression.
Bienvenue en Tunisie, donc. On s'en est sorti, mais ça a été quand même très très chaud. Je crois qu'à l'époque, on vous avait raconté nos mésaventures. Mais toujours est-il qu'on s'en est toujours un peu limité à ça, hein, quand on va en Tunisie. Ben voilà ce qui risque de vous arriver si vous êtes journaliste. Évidemment, si vous êtes touriste, c'est le jasmin et les flots bleus. Mais si vous essayez un petit peu de savoir comment on vit, comment on se débrouille, quelles sont les libertés dont on peut jouir dans ce pays, c'est un petit peu plus difficile. Alors, trop généreux, trop emporté, notre président qu'on vient d'entendre serait-il mal informé? Serait-il aveugle et sourd au bruit et aux odeurs, non pas au bruit des flots bleus et aux odeurs de jasmin tunisien, mais au bruit des tortures et aux odeurs des prisons de notre ami Ben Ali, où croupissent pas mal de prisonniers politiques, toujours aujourd'hui. Notre président ignorerait-il ce que tout le monde sait à peu près? Par exemple, la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui rappelle qu'environ 500 prisonniers politiques sont détenus dans les prisons tunisiennes et sont victimes de traitements inhumains et dégradants et sont souvent privés de soins vitaux. Plusieurs dizaines de ces prisonniers politiques, je le rappelle, sont maintenus dans l'isolement total, dont quelques-uns depuis 14 ans. Est-ce que c'est quelque chose que notre président et quelques autres oublient quand il s'agit de la Tunisie et du miracle tunisien? On va voir que c'est un oubli qui est partagé par certains hauts responsables de l'Union européenne, et pas seulement envers la Tunisie, mais envers un certain nombre de pays qui ne sont pas vraiment des pays démocratiques, comme la Syrie, le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, etc. Et c'est sur ce thème-là que Siem Ben Sedrine et Omar Mestiri développent leur livre « L'Europe et ses despotes » où, quand le soutien au modèle tunisien dans le monde arabe fait le jeu du terrorisme islamiste. Auparavant, je viens d'évoquer des détenus politiques en Tunisie. On va s'arrêter une minute sur le cas de deux militants démocrates qui viennent d'être arrêtés il y a quelques jours, quelques semaines, et qui se trouvent être les deux frères de Taoufik Ben Brik. Vous connaissez Taoufik Ben Brik, il s'était fait remarquer il y a quelques temps en France, et aussi en Tunisie. C'est donc ces deux frères, Djelal et Nejib, qui ont été arrêtés et condamnés et emprisonnés pour 10 mois de prison. Et l'un des deux frères, Djelal, a entamé une grève de la faim, et ce depuis 9 jours. Alors, pour en savoir plus, nous avons joint à Tunis l'avocat des deux frères Ben Brik, qui s'appelle Ayachi Amani. Oui, Ayachi Amani, vous êtes avocat, je vous appelle à Tunis. Vous vouliez attirer l'attention sur l'arrestation de deux militants démocrates qui ont été arrêtés le 22 septembre à Tunis et qui actuellement mènent une grève de la faim dans la prison où ils se trouvent.
Oui, les deux militants, c'est vrai, sont en train de mener la grève de la faim. Mais c'est surtout Djelal Zoglami, qui est dans la prison de Mornag, dans la banlieue de Tunis, qui mène une grève de la faim sauvage depuis le 2 novembre. Et nous craignons vraiment pour sa santé, parce que c'est sérieux, puisque ça fait 9 jours maintenant qu'il est en grève de faim sauvage pour dénoncer le fait qu'il soit incarcéré pour des raisons réellement politiques, mais sous couvert du droit commun.
C'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire que Jalal Zourlem est un militant politique en Tunisie, un militant démocrate, qui est en même temps le directeur d'un journal qui est non autorisé, non périodique, qui s'appelle Qaws el-Karama, qui veut dire l'arc de la dignité en arabe. C'est un militant qui a appelé pour le boycott des élections qui se sont passées il y a maintenant quelques 10 jours en Tunisie, mais il a été empêché de mener sa campagne, de présenter ses avis par le fait qu'il soit incarcéré pour 3 affaires de droit commun dans lesquelles il n'a rien fait en fait. Il était victime d'une machinerie policière préparé par la police politique tunisienne, et nous croyons et nous avons démontré les avocats, tous les avocats dans l'affaire, que c'était vraiment une affaire politique et qu'il devrait être libéré. D'ailleurs, ce qui montre que c'est vraiment une affaire qui n'est pas normale, du moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été arrêté le 22 septembre, mais il n'a été traduit devant le tribunal qu'après un mois et une semaine, c'est-à-dire le 28 octobre. Le 22 septembre, c'est avant les élections. Le 28 octobre, c'est après la campagne électorale et après les élections. Donc, on a voulu, en fait, l'empêcher de mener sa campagne, de dire d'exprimer son avis pour le boycott des élections. Et c'est ainsi qu'ils ont, en fait, réussi à l'incarcérer, mais c'est devenu une affaire en Tunisie. C'est l'affaire de Jalal Zourlem et son frère Najib.
Voilà, voilà des nouvelles de ces deux militants démocrates arrêtés en Tunisie, et j'apprends qu'une manifestation est prévue pour lundi prochain à midi juste le 15, donc on sera lundi prochain devant l'office du tourisme de Tunisie, 32 avenue de l'Opéra à Paris. Je répète donc lundi midi prochain, le 15, office du tourisme de Tunisie, 32 avenue de l'Opéra à Paris, dans le deuxième, manifestation de soutien aux deux frères, Jalal et Najib, les deux frères de Taoufik Ben Brik. Voilà, maintenant nous retrouvons notre invité. Siem Ben Cedrine et Omar Mestiri, le mari.
Exactement.
Voilà. Vous publiez à La Découverte un livre passionnant qui s'appelle « L'Europe et ses despotes ». En sous-titre, quand le soutien au modèle tunisien dans le monde arabe fait le jeu du terrorisme islamiste. Pourquoi ça m'a intéressé, ce bouquin? Parce que vous venez d'avoir des élections, c'est pas nous, c'est vous qui avez eu la joie de voir reconduit votre président bien-aimé, avec un score un petit peu inférieur, c'est plus 99%, c'est
94%. Oui.
Ce qui fait dire que dans une cinquantaine d'années, on devrait arriver à un peu plus de démocratie si on continue comme ça. Alors ça nous fait sourire, évidemment, mais c'est pas si drôle que ça. On s'imagine, vu d'ici, que c'est ubuesque, c'est grotesque, et on déplore un certain soutien français de certaines personnalités qu'on nomme toujours les mêmes, 3-4, et puis pour des raisons diplomatiques, de géopolitique, le soutien aussi quand même du président de la République. Mais on pense que ça s'arrête là, et voilà, quoi. C'est déplorable, mais un jour, ça changera. Et là, vous allez beaucoup plus loin dans ce bouquin. Vous dites, non, c'est pas ça, c'est la Tunisie est un exemple, pas seulement pour la France, mais pour l'Europe tout entière. C'est l'exemple de ce que doivent être, sinon l'ensemble des pays arabes, au moins les pays du Maghreb.
Effectivement, la Tunisie, comme modèle de dictature à façade démocratique, tend de plus en plus à être présentée comme modèle pour ce monde arabe, c'est-à-dire que l'Europe, et pas seulement l'Europe, c'est également les États-Unis, en fait c'est tout l'Occident, qui considère que il y a quelque part une fatalité, je ne sais pas si elle est historique ou génétique, de ce monde arabe, de conserver ces despotes, et c'est avec eux qu'on traite, simplement, étant donné que maintenant c'est la démocratie est à la mode, eh bien on voudrait bien qu'ils aient une petite façade démocratique qui soit un petit peu plus présentable, et dès le moment où ils sont présentables, on peut serrer la main, on peut les féliciter. Monsieur Ben Ali vient de recevoir des messages de félicitations de Monsieur Chirac. C'est l'un des premiers messages qu'il a reçus. Et donc, c'est une dictature qui a des vertus. Une des vertus, c'est d'être un rempart contre le terrorisme. Et je mets ça entre guillemets parce que, enfin, on en parlera peut-être tout le long de cette émission. C'est en tout cas ce qui est avancé pour justifier qu'on traite avec des dictatures, qu'on soutient des despotes, qu'on consolide ces États autoritaires contre les balbutiements des sociétés civiles qui se battent dans des conditions extrêmement hostiles, et ce combat-là n'est même pas reconnu. C'est ça aussi notre petite révolte et ce qui a été à l'origine de cet ouvrage, Omar Mestiri et moi-même.
Dans l'introduction du bouquin, vous citez des chiffres publiés par le PNUD, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies sur le développement, concernant le monde arabe. Et le PNUD nous dit que 65 millions d'adultes dans le monde arabe, dont les deux tiers sont des femmes, sont analphabètes, 10 millions d'enfants environ n'ont pas accès à l'école, un arabe sur cinq continue de vivre avec moins de $2 par jour, et continue en disant l'absence de liberté, de choix, la faible promotion des femmes et les carences de connaissances sont autant de causes de ces déficits. Donc il n'y a pas de fatalité arabe là-dedans, il y a une misère arabe, il y a un sous-développement arabe. Et vous pensez que l'Occident a une responsabilité là-dedans en maintenant... Alors, avec une façade, évidemment, toujours plaisante et avec des grands principes et des grands discours. Et ce qui est très préoccupant, c'est que, en fait, on a l'impression qu'on est vraiment en train de donner raison à Bush avec sa guerre des civilisations. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien deux mondes, le nôtre, celui du monde civilisé, et puis en face, ben vous, quoi, les barbares, les arabes, les islamistes. Et... Sauf que la Tunisie est un petit peu à la charnière entre les deux, quand même. Vous vous débattez encore.
Et effectivement, vous venez de souligner ce paradoxe, ce monde arabe, c'est quand même pas un monde de pauvreté en matière de ressources naturelles. C'est quand même là où il se trouve le pétrole, les principales réserves européennes, ou du monde en tout cas, de pétrole. C'est là où se trouve un certain nombre de richesses naturelles. C'est là où se trouve aussi le berceau de la civilisation. C'est là où se trouvent aussi les plus grands contentieux que vit notre époque, comme le conflit israélo-palestinien et les différentes guerres que nous voyons un petit peu à droite et à gauche. Mais en tout cas, le paradoxe est le suivant. C'est que on a affaire à une zone, une aire géographique où les potentialités pour se développer existent. Les ingrédients sont là. Et pourtant, c'est le monde le plus arriéré en matière de démocratie. C'est là où les libertés sont en déficit total et c'est là où la démocratie ne fait aucun pas, alors que quand nous voyons un petit peu ce qui se passe en Amérique latine, en Asie, en Europe de l'Est, en Afrique, nous voyons quand même des progrès, nous voyons des sociétés qui essayent d'émerger en matière de démocratie et de droits fondamentaux, mais là, c'est bloqué. Et on se pose la question, pourquoi? Si on voit les choses de près, nous allons voir que sans exception, je suis peut-être caricaturale, mais c'est sans exception, tous les États arabes sont dirigés par des dictateurs à des degrés divers, avec des modulations plus ou moins apparentes, enfin en tout cas de la manière dont sont gérées ces dictatures. Et nous voyons avec, comme vous venez de le citer, le rapport du PNUD, qui met le doigt sur l'origine de ce mal. L'origine de ce mal, il est politique. Il n'est ni culturel, ni économique, ni de civilisation, comme veut bien nous le faire croire l'administration Bush, qui pense que c'est une arriération due à notre culture, en fait. Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution, alors qu'ils sont les premiers responsables du maintien au pouvoir de ces pouvoirs archaïques, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui est l'État le plus archaïque en matière de liberté, et qui est le principal allié, jusque-là en tout cas, maintenant il commence à changer, des États-Unis dans la région. Donc le paradoxe, il est là. Nous avons affaire à des sociétés qui sont bridées dans leur élan vers la liberté, et l'Occident, et l'Europe en particulier, a une responsabilité certaine dans cette frustration, dans ce maintien dans l'aliénation.
Naturellement, nous avons chacun nos critères d'appréciation, et je souhaite que le caractère libéral, respectueux des libertés, soit de plus en plus affirmé, ce dont je ne doute pas d'ailleurs en Tunisie. Mais enfin, je constate que de ce point de vue, quand même, la Tunisie ne se situe pas dans une situation contestable.
Vous parlez aussi de l'islamisme, hein, de l'islam politique. dans votre bouquin, vous vous situez très clairement, vous dites que vous n'avez pas envie d'encourager un islamisme extrémiste qui voudrait imposer la charia, mais que l'islam politique est à prendre en considération, notamment en Tunisie, mais partout dans le monde. Et en matière d'islam politique, vous faites observer, vous venez de parler de l'Arabie Saoudite, vous faites observer que le roi du Maroc, M6, comme on l'appelle, monarque libéral, est commandant des croyants. Voilà quelqu'un qui est dans le cadre de l'islam politique. La famille Saoud, protectrice des lieux saints, est aussi dans l'islam politique. Mais ça, on n'en parle pas. Là, on ne parle pas d'islamisme politique. On en parle que quand il y a une revendication, quand les islamistes réclament, ce que nous dit le PNUD par ailleurs, ont des revendications d'ordre social, de droits de l'homme, etc.
Comme vous le dites, il y a cet islam officiel qui est l'islam politique, qui s'affirme comme étant la source de la légitimation du pouvoir dans certains pays, comme le Maroc ou l'Arabie Saoudite, eh bien, ça ne dérange pas l'Occident. Et qu'est-ce qui dérange l'Occident ? C'est cet islam contestataire, en fait. Et par rapport à nous, il faut que les choses aussi soient très claires pour Omar Msiri et moi-même. Il n'est pas question d'approuver ou d'accepter que nos sociétés soient gérées par la charia, et nous exigeons, c'est notre revendication à mon avis tout à fait basique, que nos sociétés soient gérées par un droit positif comme toutes les sociétés modernes, et que la religion, elle se trouve là où elle doit se trouver, c'est-à-dire dans la sphère privée et dans les choix privés des citoyens, et que ce qui unit des citoyens, c'est uniquement le rapport à un État qui organise leur liberté, et chacun fait ce qu'il veut, d'autant que dans ce monde arabe, et là je ne parle pas que de la Tunisie, il y a des Arabes juifs, il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes de confessions diverses, notamment l'Irak qui est le bel exemple de multiconfessionnalisme. Donc ce monde arabe, il n'est pas que musulman. Mais il faut quand même reconnaître que la majorité des populations qui vivent dans ce monde sont musulmans. C'est la majorité. Eh bien, moi, ce qui me choque dans le comportement des Occidentaux, c'est que on accepte que le christianisme fasse en évolution dans vos sociétés, c'est-à-dire vos sociétés ont quand même été construites sur la base de cette religion-là. Cette religion a été un moment, un handicap à l'évolution des sociétés. Il y a eu les révolutions contre la religion, contre le clergé, il y a eu des évolutions marquantes qui ont permis à vos sociétés de prendre leur essor. Il y a eu les siècles des Lumières où vous avez fait la rupture entre l'État et le clergé, etc. C'est votre histoire. Et le christianisme s'est réinvesti dans la société sans envahir le politique totalement. Mais il existe des chrétiens démocrates chez vous. Il existe des partis politiques qui se réclament de la religion. C'est intégré dans la démocratie. La démocratie, elle est capable de digérer ce genre de phénomènes qui ne sont pas en conflit avec la démocratie, mais qui sont une manière de gérer la diversité des citoyens. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que quand il s'agit des pays musulmans, on n'accepte pas qu'il y ait des démocrates musulmans comme des démocrates chrétiens. On n'accepte pas cette donnée-là. Et on veut acculer les musulmans qui choisissent de porter cette bannière, on veut les acculer à l'extrémisme. C'est-à-dire que vous avez le choix entre disparaître et vous radicaliser et choisir le chemin de la violence. C'est-à-dire que tout est mis en place pour les obliger à être dans l'extrémisme au moment même où on dit que l'extrémisme nous dérange et nous embête parce qu'il produit de la violence, il produit une insécurité pour tout le monde. Et donc, on n'en veut pas. Mais au même moment, on fait tout pour le reconduire, on fait tout pour évacuer ces musulmans qui veulent gérer leur islam dans la cité. C'est leur choix. Je ne le partage pas, mais je considère que dans une démocratie, il ne s'agit pas d'obliger tout le monde à avoir des choix idéologiques et politiques identiques. Il s'agit d'accepter ce qui existe sur l'échiquier politique et de l'organiser en fonction des règles de la démocratie auxquelles toute la société doit se soumettre.
Le premier des droits de l'homme, c'est de manger, d'être soigné, de recevoir une éducation et d'avoir un habitat. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance sur beaucoup, beaucoup de pays.
Siem Ben Sedrine, vous citez un discours de notre président bien-aimé, nous aussi, Jacques Chirac, qui est en visite officielle en Tunisie en décembre 2003, et qui vous déclare ceci à vous, les petits Tunisiens, qui vous dit « Le premier des droits de l'homme, c'est de manger, d'être soigné et de recevoir une éducation et d'avoir un habitat. » Voilà, fin de citation. Et il le dit au moment où l'avocate Radia Nasraoui entame son 50e jour de grève de la faim pour protester contre le déni de ses droits élémentaires. On vous prend pour un peuple sous-développé qui n'a absolument rien à manger, alors que on arrive quand même à manger à peu près en Tunisie, hein, alors qu'on a une avocate, une des figures du combat pour les droits de l'homme et les libertés en Tunisie, qui a son 50e jour de grève de la faim volontaire pour la défense des droits les plus élémentaires. Là, il y a vraiment, en quelques lignes, ramassé toute cette duperie et toute cette histoire.
Oui, parce que on nous renvoie à la gueule tout le temps ce message. Puisque vous mangez correctement, puisque Ben Ali vous éduque et vous donne vos doigts en tant que femme, et puisqu'il vous donne certains soins de santé de base, eh bien, vous devez vous taire.
C'est déjà
votre liberté,
pas mal. Oui.
C'est déjà pas mal.
Pour des gens comme vous, c'est bien.
Exactement. C'est exactement ça. Et pour nous, on le reçoit comme un racisme. C'est comme si nous, notre liberté, elle compte pas. Ben Ali, qui n'est pas du tout à l'origine de ce développement qu'il nous envoie à la face, qu'on a eu, par exemple, nos droits des femmes, on les a eu en 56. C'est pas lui qui nous en a fait cadeau. L'éducation, c'est pas lui non plus qui nous en a fait cadeau. On les a eu depuis les années 60. Tout ce qu'il avance comme acquis, ce sont les acquis de la société. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on utilise ces acquis de la société pour demander à ceux qui veulent avancer encore, eh bien maintenant stop. Vous avez assez avancé, ça vous suffit, votre liberté c'est pas important. Et ça nous choque particulièrement. Ça nous choque particulièrement et par rapport à la France, parce que il faut savoir que la France au Maghreb, pas seulement en Tunisie, joue un rôle de locomotive pour l'Europe et elle a une responsabilité européenne, pas française. Donc quand monsieur Chirac parle, il ne parle pas que pour la France, il parle pour toute l'Europe quand il s'exprime dans nos pays. Et il y avait des attentes en sa direction quand la société civile demandait à le voir, quand il y a eu des pressions pour qu'il reçoive au moins le mari de Radia Nasraoui au moment où il faisait cette grève, que on essayait de lui montrer que nous sommes en déficit de liberté, que vous, la France, ce pays des droits de l'homme, ce pays qui a quand même joué un rôle important dans toute l'Europe pour faire valoir ces libertés-là. Quand ce pays-là vient et il appuie de manière aussi ouverte notre dictateur, vous savez, le choc est terrible. Et il est double, c'est-à-dire non seulement il y a une attente qui est frustrée de la part d'une démocratie et qui appuie ouvertement une dictature, mais en plus, il y a une forme d'insulte à notre intelligence, à notre histoire, à notre humanité, à notre civilité. C'est comme si nous, on ne méritait pas d'être considérés comme des citoyens du monde, comme les autres.
Et voilà ce qui se passe quand les femmes ont des droits et quand il y a un droit à l'éducation, comme c'est le cas en Tunisie, ça donne des personnes comme Siem Ben Sedrine, avec qui nous passons cette heure autour du livre qu'elle signe avec Omar Mestiri, L'Europe des despotes, où les deux auteurs essayent de prouver que, en refusant la liberté aux pays du Sud, l'Europe, en fait, nourrit le désespoir des pays du Sud. On le voit avec l'arrestation de Jalel et de Nejib. Et ce désespoir, évidemment, entraîne l'extrémisme, entraîne effectivement le terrorisme, alors que cette Europe prétend combattre le terrorisme en question. Voilà ce que nos deux auteurs essayent et parviennent, je trouve, à décrire. On continue avec Siem Ben Sedrine. Alors on avance évidemment aussi parmi les bonnes raisons, mais alors celles-ci sont beaucoup plus cyniques et sont le plus souvent off, la compétition euro-américaine en matière de ressources, évidemment, dans le Maghreb. En Libye, par exemple, on a vu le retournement étonnant. Kadhafi, un jour, Satan, le lendemain, ami, comme Saddam Hussein a été quand même, pendant deux décennies, un allié tout à fait avec qui on s'entendait très bien. Donc il y a des retournements. Quel est le poids de cette lutte euro-américaine en Tunisie? Est-ce que vous la sentez?
Elle existe, comme vous l'avez bien souligné, et c'est une compétition pour avoir l'influence, pour des zones d'influence dans la région. Et c'est surtout l'Algérie et la Libye qui sont les centres de cette compétition. Mais nous, ce qui nous choque dans cette compétition, c'est que au même moment où, par exemple, les États-Unis parlent du Greater Middle East, de la démocratie qu'il doit absolument être mise en œuvre dans tout ce monde-là, au même moment où l'Europe avance son nouveau projet de partenariat avec la nouvelle politique de voisinage qui met davantage encore l'accent sur la nécessité de promouvoir la démocratie dans les pays avec lesquels les accords sont signés, de promouvoir l'état de droit, etc. Eh bien, c'est au moment même où ils tiennent ce discours, ces pays, et ce sont des démocraties, ce ne sont pas des dictatures, ces pays-là, eh bien, renforcent les dictatures, ils les appuient parce qu'ils considèrent qu'ils sont de bons alliés et qu'ils protègent leurs intérêts et qu'il n'y a que leurs intérêts qui comptent. Et là, vous savez, il y a quelque chose de contre-productif dans leur politique parce que dans nos propres sociétés, les gens simples disent, eh bien, ces gens-là, nous, on ne croit pas du tout à leur idéologie, on ne croit pas du tout à leur démocratie, elle sert strictement à rien, ils sont doubles. Et ils ne sont pas sincères quand ils parlent, et donc on ne leur fait pas confiance. Et vous, des défenseurs des droits humains, qui brandissez la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui brandissez toutes ces valeurs, qui vous battez pour cela, eh bien, vous aussi, vous êtes un peu quelque part leurs complices, puisque vous croyez à leurs histoires, alors qu'il faut être plutôt dans la contestation totale et le rejet total. Et donc, quelque part, on donne raison à tous ceux qui ne croient pas à leur discours, à leur démocratie, et qui se rangent dans des choix extrémistes.
Ce que vous dites aussi, c'est qu'entre la dernière fois où on s'est vu en Tunisie, on a été poursuivi par la police tunisienne, et aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. Il y a eu le 11 septembre depuis, et puis votre président bien-aimé, vous le dites dans votre livre, invente une fausse société civile. C'est-à-dire, c'est comme les villages Potemkin au temps de l'URSS, c'est-à-dire qu'il invente une pseudo-démocratie. Tout est dédoublé dans le pays, si bien que ça rend vos luttes encore plus difficiles. Ça passe par derrière, qu'il y a une duplicité.
Absolument. Vous touchez du doigt quelque chose qui est notre vrai calvaire. Nous avons du mal à convaincre nos amis, les partenaires étrangers pour leur expliquer que nous ne disposons d'aucune liberté. Les libertés élémentaires qui consistent à parler publiquement, à publier publiquement, à marcher dans la rue, à s'asseoir ensemble dans un café, à faire une réunion. Les choses vraiment élémentaires nous sont confisquées. Et parce que, justement, le modèle Ben Ali, c'est un modèle qui met en place une scène où tout existe, comme vous venez de le dire, en double. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il s'agit d'une vraie société, il s'agit effectivement d'une fausse société. La société réelle est frustrée de l'ensemble de ses droits. Tout dernièrement, nous venons justement de subir ce qu'ils ont appelé des élections et qui n'ont rien à voir avec des élections, mais nous avons essayé, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'Association des femmes démocrates et le Conseil des libertés, nous avons essayé d'observer le comportement uniquement des médias, pas de contrôle des élections, sur cette période électorale. Et vous n'imaginez pas ce qu'on a sorti dans les chiffres qui mesurent l'omniprésence et le monopole exercé, qui est réel, qui est exercé par le pouvoir. Donc, nous sommes en situation où, d'une part, on est accrédité d'une liberté dont on ne dispose pas, et cette façade, eh bien, elle est bien vendue. Elle est bien vendue auprès des partenaires.
Elle est présentable.
Elle est tout à fait présentable.
Admissible. Et vous indiquez quelque part que, justement, une association de journalistes tunisiens a décerné au président Ben Ali une plume d'or.
Exactement, pour la promotion de la liberté de la presse qu'il a fait jusque-là.
Bien
alors
sûr.
Que depuis son arrivée au pouvoir, et notamment en 91, il arrive au pouvoir en 87, en 91, il n'y a plus aucun journal libre en Tunisie à ce jour. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que la Fédération internationale des journalistes a suspendu l'adhésion de cette association pour 2 ans, en attendant qu'elle fasse son boulot, quoi.
En conclusion, c'est quand même un constat assez dur que vous faites. Le soutien de nos pays occidentaux, d'une autre, tout particulièrement au modèle, entre guillemets, tunisien, et à des pays dirigés de la même façon, dans le Maghreb ou dans les pays arabes, finalement, fait le jeu du terrorisme, du terrorisme islamiste ou non, mais terrorisme, et on se demande à un moment s'il n'y a pas une recherche de fabriquer du terrorisme pour justifier des politiques sécuritaires et des politiques tout court. Vous parlez de pompiers, de pyromanes en ce qui concerne la politique française, mais on se demande dans quelle mesure il n'y a pas une volonté d'être des pompiers pyromanes.
Absolument, des deux côtés. Du côté d'abord du pouvoir tunisien qui a une forme de légitimation par ce combat contre le terrorisme, et il fait des procès pour actes terroristes avec des citoyens qui n'ont commis aucun acte terroriste, comme l'exemple des jeunes de Zarzis qui sont actuellement en prison et condamnés à 16 ans de prison pour avoir simplement visité des sites web en tant que simple internaute.
16 ans de prison.
16 ans de prison pour des jeunes qui sont âgés entre 18 et 24 ans. Et c'est tout ce qu'offre Ben Ali à ces jeunes-là, c'est justement des foudres en prison. De l'autre côté, du côté européen, le fait d'appuyer ce genre de politique, il est à l'exa-opposé des objectifs poursuivis, qui sont les objectifs de sécurité, qu'on peut comprendre. C'est normal qu'une société cherche à se protéger de toute forme de violence. Mais, justement, en soutenant ces dictatures, les États occidentaux sont en train de démultiplier les dangers de terrorisme. Et si vous mesurez, depuis le moment où on a mis en place ces politiques de lutte contre le terrorisme, et aujourd'hui, vous allez voir que le terrorisme a grimpé, il n'a pas diminué. Et il ne se pose pas de questions. Pourquoi les politiques qu'ils ont mis en place, au lieu d'éradiquer le terrorisme, est en train de le démultiplier?
En vous écoutant, on va se dire, mais de quoi ils se plaignent, ces Tunisiens? Si M. Ben Sedrine, elle est là, elle s'exprime, elle voyage. Ils peuvent s'exprimer, ces gens-là?
Oui, ils peuvent le dire, effectivement. Je suis libre de m'exprimer. C'est une liberté que j'ai payée cher. On ne m'a pas fait cadeau. Et elle coûte toujours cher. Je ne suis pas la seule en Tunisie. Plusieurs défenseurs de droits humains sont dans mon cas. Et nous sommes interdits de travailler dans notre pays. Nous sommes privés de ressources. Nous n'avons pas le droit de disposer de la sécurité, du confort élémentaire que n'importe quel citoyen de notre statut, disons de petit bourgeois, peut espérer avoir. Nous n'avons pas le droit d'avoir une vie familiale et sociale comme les autres. Nous sommes toujours encerclés par des policiers qui nous suivent partout.
Des anges gardiens qui nous protègent.
Voilà, dont vous avez, vous, Daniel, fait l'expérience. Nos enfants ne vivent pas une vie normale. Souvent, nous le reprochons et c'est une forme d'interpellation qui nous met aussi dans une forme de culpabilité parce que nous avons fait des choix pour nous-mêmes et ces choix se répercutent sur notre entourage alors qu'ils n'ont pas fait ces mêmes choix. Donc, vous savez, avoir choisi de s'exprimer librement, ce n'est pas quelque chose qui va de soi dans notre pays. Et moi, si je poursuis, moi et Omar Mestiri, ce combat, c'est précisément pour que un jour, tous les Tunisiens puissent en disposer sans avoir à en payer une facture, sans avoir à mettre en danger leur sécurité, leur confort, leur travail, leur avenir. Et c'est ça la dictature, c'est que vous choisissez entre votre sécurité et votre liberté.
Voilà, merci Siem Ben Sedrine. Je rappelle le livre dont il est question, L'Europe et ses despotes, Siem Ben Sedrine et Omar Mestiri. C'est aux éditions de La Découverte. Merci aussi à l'avocat Yachi Amani qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Et je vous rappelle, le lundi 15 novembre à 12h devant l'Office du tourisme de Tunisie, avenue de l'Opéra à Paris, 32 avenue de l'Opéra à Paris, manifestation en soutien à Djelel et Nejib Benbrick, de deux militants démocrates arrêtés en Tunisie et Djelel a entrepris une grève de la faim. Merci à tous. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Réalisation Antoine Chao. Assistant Yann Chouquet. Assistante chef Pascal E. Pascariello. Et chef du répondeur Christophe Humbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h pour La Basse, j'y suis. Au revoir. Après la réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau, Charivari.